Chapitre 15. Trois années s'étaient écoulées. Stein, qui était du petit nombre de ceux qui sont peu exigeants, se croyait heureux. Il aimait tendrement sa femme. Il s'était attaché chaque jour davantage à son beau-père et à l'excellente famille qu'il avait recueillie mourant et dont l'affection ne s'était jamais démentie. Sa vie uniforme et champêtre était en harmonie avec ses goûts modestes et avec son caractère doux et pacifique. D'ailleurs, la monotonie a aussi ses charmes. Une existence toujours égale est comme une mélodie simple et composée de peu de notes qui nous berce agréablement. Il n'y a peut-être rien qui laisse de plus doux souvenir que cet enchaînement de jours dont chacun ne diffère pas plus de celui qui le suit que de celui qui l'a précédé. Quelle fut donc la surprise des habitants de la chaumière quand ils virent accourir un matin Momo tout effaré et qu'ils l'entendirent crier à Stein d'aller au couvent sans perdre un instant. « Quelqu'un de la famille est-il tombé malade ?» demanda Stein effrayé. « Non, répondit Momo, c'est un monsieur qu'ils appellent son excellence, qui chassait dans le pays les sangliers et les chevreuils avec ses amis. En sautant un fossé, son cheval a glissé et tous deux ont roulé par terre. » Le cheval en a crevé et l'essence s'est brisée autant d'os qu'il en a dans le corps. On l'a apporté sur un brancard au couvent qui est devenu une vraie Babylone. On dirait le jour du jugement dernier. Ils sont tous bouleversés comme le troupeau au milieu duquel le loup est entré. Le seul qui soit calme est celui qui a fait la chute. On voit d'ailleurs que c'est un solide garçon. Tous étaient déroutés et ne savaient que faire. Grand-mère leur a dit qu'il y avait ici un chirurgien d'un rare talent, mais ils ne voulaient pas la croire. Cependant, comme il faut 2 jours pour en amener un de Cadix et 2 autres jours pour en faire venir un de Séville, son essence a dit que sa volonté était qu'on demandât celui que recommandait ma grand-mère, et c'est pour cela que j'ai eu à venir ici, car on dirait qu'on ne peut rien faire en ce monde sans moi. Maintenant, je vous le dirai franchement, si j'étais à votre place et qu'ils n'eussent pas fait plus de cas de moi, je n'irais pour rien au monde. « Quand même, dit Stein, je serais capable d'enfreindre mes devoirs de chrétien et de médecin, il faudrait que j'eusse un cœur de bronze pour voir souffrir un de mes semblables sans le soulager, pouvant le faire. Du reste, ces messieurs ne peuvent avoir confiance en moi puisqu'ils ne me connaissent pas, et ce n'est pas une offense. Et ce n'en serait même pas une si, quoique me connaissant, ils n'avaient pas encore cette confiance. » Tout en parlant, ils arrivèrent au couvent. La tante Maria, qui attendait Stein avec impatience, le conduisit à l'appartement où se trouvait l'inconnu. On l'avait mis dans la cellule du prieur, où on lui avait dressé un lit à la hâte et du mieux qu'on avait pu. La tante Maria et Stein traversèrent le groupe de chasseurs et de domestiques qui entouraient le malade. C'était un jeune homme de haute taille. Autour de sa belle figure, pâle mais tranquille, tombaient les boucles de ses cheveux noirs. Stein ne l'eut pas sitôt aperçu qu'il poussa un cri et s'élança vers lui. Mais il s'arrêta de suite, craignant de le toucher, et croisant ses mains toutes tremblantes, il s'écria « Oh mon Dieu, monsieur le duc !»« Est-ce que vous me connaissez ?» demanda le duc, car la personne que Stein venait de reconnaître était en effet le duc d'Almansa. « Vous me connaissez ? » répéta-t-il en élevant la tête et fixant ses grands yeux noirs sur Stein, sans pouvoir s'imaginer quel était celui qui venait de lui adresser la parole. « Vous ne vous souvenez pas de moi ? » murmura Stein, tandis que 2 grosses larmes coulaient sur ses joues. « Ce n'est pas étonnant. Les âmes généreuses oublient le bien qu'elles font, comme les cœurs reconnaissants conservent éternellement le souvenir du bien qu'on leur a fait. »« Mauvais début !» dit un des assistants. « Un chirurgien qui pleure, nous voilà bien. »« Quelle malheureuse rencontre !» dit un autre. « Monsieur le docteur, dit le duc à Stein, je me remets entre vos mains. J'ai confiance en Dieu, en vous et en ma bonne étoile. Mettez la main à l'œuvre sans perdre de temps. » En entendant ces mots, Stein leva la tête. Son visage devint parfaitement calme et d'un geste modeste mais ferme et impératif, il éloigna ceux qui l'entouraient. Ensuite, il examina le blessé, montra une main habile et exercée dans ce genre d'opération, et tout cela avec tant d'assurance et d'adresse que tous gardèrent le silence et qu'on n'entendait dans l'appartement que la respiration oppressée du patient. « Monsieur le duc, dit le chirurgien, après avoir terminé son examen, a la cheville du pied démise et la jambe cassée, sans doute parce que tout le poids du cheval a porté sur elle. Du reste, je crois pouvoir répondre d'une guérison complète. » « Serais-je boiteux ? Demanda le duc. « Il me semble que je puis vous assurer que non. »« Faites comme vous le dites, continua le duc, et je dirai que vous êtes le premier chirurgien du monde. » Stein, sans se troubler, fit appeler Manuel sur la force et la docilité duquel il savait qu'il pouvait compter. Avec son aide, il commença l'opération qui fut certainement fort douloureuse. Mais Stein ne paraissait pas s'occuper des souffrances du blessé, quoiqu'elles fussent tellement vives qu'elles le privaient presque de sentiments. Au bout d'une demi-heure, le duc reposait, non sans souffrir encore, mais plus calme. Au lieu de leur première disposition à la méfiance et au soupçon, les amis du grand personnage prodiguèrent à Stein leurs félicitations et leurs marques d'estime. Lui, revenant à son naturel modeste et timide, répondait à tous avec affabilité. Mais la plus contente était la tante Maria, qui se trouvait comme dans un bain d'eau de rose. « Ne vous l'avais-je pas dit ? » répétait-elle à toutes les personnes présentes. « Ne vous l'avais-je pas dit ?» Les amis du duc, tranquillisés et à sa prière, se mirent en route pour retourner chez eux. Le blessé avait exigé qu'on le laissât seul sous la direction de son habile docteur, de son vieil ami comme il l'appelait, et il congédia même presque tous ses domestiques. Ainsi, le duc et son médecin purent renouveler connaissance à leur aise. Le premier était un de ces hommes qui savent s'élever au-dessus de la matière et ne se laissent asservir ni par l'habitude, ni par l'attrait du bien-être physique. Un de ces êtres privilégiés, capables de se mettre au-dessus des circonstances, non par un mouvement passager et par conséquent peu durable, mais par l'énergie propre et la fermeté soutenue de leur nature qui les protège comme une cuirasse de fer impénétrable et qu'on pourrait symboliser par ce mot « qu'importe ». Un de ces cœurs, comme il en battait sous les armures du XVe siècle et dont on ne pourrait aujourd'hui rencontrer les pareils qu'en Espagne. Stein raconta au duc ses campagnes, ses malheurs, son arrivée au couvent, ses amours, son mariage. Le duc l'écouta avec beaucoup d'intérêt et son récit lui inspira le désir de faire connaissance avec Marie Salade, avec le pêcheur et avec la chaumière que Stein préférait à un riche palais. C'est ainsi que, dès la première sortie qu'il fit, accompagné de son médecin, il se dirigea vers le bord de la mer. L'été commençait. Une brise fraîche venant de la mer rendit leur promenade délicieuse. Le fort de Saint-Christophe apparaissait, avec sa couronne de verdure nouvelle, comme pour faire honneur au haut personnage, aux yeux duquel il se montrait pour la première fois. Les petites fleurs qui couvraient le toit de la chaumière, à l'imitation des jardins de Sémiramis, balancées par le souffle léger du vent, se serraient l'une contre l'autre comme des jeunes filles pour se dire à l'oreille le secret de leur cœur. La mer poussait doucement ses vagues presque jusqu'au pied du duc, comme pour lui souhaiter la bienvenue. On distinguait le chant de l'alouette qui planait si haut dans les airs que l'œil ne pouvait l'apercevoir. Le duc, un peu fatigué, s'assit sur un rocher. Il avait l'imagination poétique et jouissait en silence de cette belle scène. Tout à coup, une voix s'éleva, chantant un air simple et mélancolique. Le duc, surpris, regarda Stein, qui se mit à sourire. Le chant continuait. « Stein, dit le duc, est-ce qu'il y a des sirènes sur ces flots ou des anges dans les airs ?» Au lieu de répondre à cette question, Stein prit sa flûte et répéta la mélodie qu'on venait d'entendre. Alors le duc y s'approchait, moitié courant, moitié sautant, une jeune femme au teint basané qui s'arrêta brusquement en l'apercevant. « C'est ma femme, dit Stein, c'est ma chère Maria. »« Eh bien, dit le duc, elle a la voix la plus admirable du monde. »« Madame, dit-il en s'adressant à Marie Salade, « j'ai été dans tous les théâtres de l'Europe, mais je n'ai jamais rien entendu qui ait davantage excité mon admiration. » Si le teint brun et mat de Marie eût été susceptible de se couvrir d'une autre couleur, La rougeur de l'orgueil et de la satisfaction se serait montrée sur ses joues en entendant ses louanges enthousiastes sortir de la bouche d'un si grand personnage qui était en même temps un juge si compétent. Le duc poursuivit. « À vous deux, vous possédez tout ce qui est nécessaire pour faire votre chemin dans le monde. Et vous voudriez rester enseveli dans l'obscurité et l'oubli ? Cela est impossible. Vous ne pouvez empêcher la société de profiter de pareils talents. Je répète que c'est impossible et que cela ne sera pas. » « Nous sommes si heureux ici, monsieur le duc, » répondit Stein. « Je me croirais ingrat envers le sort si je changeais quelque chose à ma situation. » « Stein, s'écria le duc, qu'est donc devenue cette ferme et froide résolution que j'admirais en vous quand nous étions ensemble à bord du Royal Sovereign ? Qu'est devenu cet amour de la science, ce désir de vous consacrer au soulagement de l'humanité affligée ? Vous êtes-vous laissé enivrer par le bonheur ? Serait-il vrai que le bonheur rend les hommes égoïstes ?» Stein baissa la tête. « Madame, continua le duc, à votre âge et avec un pareil talent, pouvez-vous vous résigner à rester toujours attachée à votre rocher, comme ces ruines ?» Maria, dont le cœur battait vivement, rempli qu'il était de joie et d'espérance séduisante, répondit cependant avec une froideur apparente. « Qu'est-ce que cela me fait ?»« Et ton père ?» lui demanda son mari d'un ton de reproche. « Il est à la pêche, » répondit-elle, feignant de ne pas avoir compris le véritable sens de la demande. Le duc entra ensuite dans une longue explication de tous les avantages que pouvait lui procurer cet admirable talent, capable de lui valoir une fortune et un trône. Maria écoutait avidement ces détails, tandis que le duc admirait le jeu varié de cette physionomie, tour à tour froide ou enthousiaste, glacée ou respirant l'énergie. Quand le duc prit congé, Maria dit précipitamment à son mari en lui parlant à l'oreille « Nous nous en irons. Comment ? La fortune m'appelle et m'offre des couronnes, et je ferai la sourde oreille. Non, non !» Stein suivit tristement le duc. Quand ils entrèrent dans le couvent, la tante Maria demanda au duc, qui traitait sa garde-malade avec beaucoup de bonté, comment il avait trouvé sa chère Maria. « N'est-ce pas, dit-elle, que Marie Salade est une jolie personne ?»« Certainement. Elle a des yeux qu'un aigle seul pourrait regarder en face, selon l'expression d'un poète. » « Et la grâce de sa personne, continua la bonne vieille, et sa voix ?»« Quant à sa voix, dit le duc, elle est trop belle pour rester perdue dans ce désert. Vous avez assez de vos rossignols et de vos chardonnerets. Il faut que le mari et la femme viennent avec moi. » La foudre qui serait tombée aux pieds de la tante Marie l'aurait moins atterrée que ses paroles. « Et le veulent-ils, eux ? » s'écria-t-elle toute saisie. « Il faut bien qu'ils le veuillent, » répondit le duc en entrant dans ses appartements. La tante Maria resta consternée et interdite pendant quelques instants. Puis elle s'en alla trouver le frère Gabriel. « Ils s'en vont !» dit-elle en fondant en larmes. « J'en rends grâce à Dieu, » répondit le frère. « Ils ont assez abîmé les dalles de marbre dans la cellule du père prieur. » Que dira sa révérence à son retour ? Vous ne m'avez pas compris, dit la tante Marie. C'est Don Frédéric et sa femme qui s'en vont. Comment ils s'en vont ? Dit le frère Gabriel. C'est impossible. Est-ce vrai ? Demanda la tante Marie à Stein qui venait à sa recherche. Elle le veut, répondit celui-ci dont le visage était tout abattu. C'est ce que dit toujours son père. Et avec cette belle réponse, il aurait laissé mourir si nous n'avions pas été là. Ah, donc, Frédéric, vous êtes si bien ici. Vous voilà comme cet Espagnol qui, étant bien, voulut être mieux. Je ne crois ni n'espère être mieux nulle part ailleurs que dans ce lieu, ma bonne tante Marie, dit Stein. Quelques jours, répondit celle-ci, vous aurez à vous en repentir. Et le pauvre oncle Pedro, « Mon Dieu, pourquoi faut-il avoir vécu jusqu'à un pareil bouleversement ?» Don Modesto entra dans ce moment. Depuis quelque temps, ses visites étaient devenues plus rares, non parce que le duc lui faisait moins bon accueil, ni parce que le vétéran n'éprouvait pas le même attrait sympathique que le grand personnage exerçait sur tous ceux qui l'approchaient. mais comme de raison dont Modeste s'était fait une loi de ne jamais paraître devant le duc, général et ancien ministre de la guerre, autrement que dans toutes les règles de l'étiquette. Rosa Mystica lui avait dit que son uniforme n'était plus capable d'un service actif et c'est pour cela que ses visites étaient devenues plus rares. Quand la tante Marie lui apprit que le duc avait l'intention de partir au bout de 2 jours, Don Modesto se retira immédiatement. Il avait formé un projet et il lui fallait un peu de temps pour le réaliser. Quand Marie Salada communiqua à son père la résolution qu'elle avait prise de suivre les conseils du duc, la douleur du pauvre vieillard aurait fendu un cœur de pierre. Son chagrin, cependant, resta renfermé dans le silence. Il écouta les magnifiques projets de sa fille sans les blâmer ni les approuver et ses promesses de retour sans les avoir exigées et sans les repousser. Il la regardait comme l'oiseau considère son petit quand celui-ci s'apprête à quitter le nid dans lequel il ne doit jamais revenir. Ce pauvre père pleurait en dedans, s'il est permis de s'exprimer ainsi. Le jour suivant, on vit arriver les domestiques, les chevaux et les bêtes de somme que le duc avait fait venir pour son voyage. Les cris, les souhaits de bon voyage retentissaient dans tous les coins du couvent. Le frère Gabriel en fut réduit à aller travailler à ses cabanes sparteries sous le lierre à l'ombre duquel se trouvaient autrefois les norias. Morongo monta sur la partie la plus élevée du toit et s'étendit au soleil, considérant d'un air de mépris toute l'agitation qu'on se donnait dans la cour. Palomo aboya, grogna et protesta si bruyamment contre l'invasion étrangère que Manuel ordonna à Momo de l'enfermer. « Certainement, disait Momo, ma grand-mère, qui est la plus intrépide infirmière qu'il y ait sous la calotte du ciel, a un aimant pour attirer les malades ici. Avec celui-ci, en voilà déjà 3. Sans doute que dans le ciel, elle se mettra à soigner Saint-Lazare. » Le jour du départ était arrivé. Le duc se tenait déjà tout près dans son appartement. Stein et Maria étaient accompagnés du pauvre pêcheur dont le corps était ployé en 2 sous le poids du chagrin et dont les yeux ne quittaient pas la terre. Cette immense douleur l'avait plus vieilli que les années et toutes les bourrasques de la mer. En arrivant, il s'assit sur les degrés de la croix de marbre. Quant à Don Modesto, il était venu aussi, mais avec la consternation peinte sur le visage. Ses 2 sourcils se relevaient comme 2 arcs d'une hauteur prodigieuse. Une mèche de ses cheveux clairsemés tombait d'un côté, tristement aplatie. De profonds soupirs s'échappaient de sa poitrine. « Qu'avez-vous, mon commandant ? » lui demanda la tante Marie. « Tante Marie, lui répondit-il, c'est aujourd'hui le 15 juin, jour de la fête de mon patron, jour tristement mémorable dans les faces de ma vie. Oh, Saint Modesto, est-il possible que tu me traites ainsi le jour même où l'Église te glorifie ?»« Mais qu'y a-t-il donc de nouveau ?» lui demanda la tante Marie, inquiète. « Voyez, dit le vétéran en levant le bras, et montrant que son uniforme avait une déchirure par laquelle on apercevait la doublure blanche comme une rangée de dents sous un rire moqueur. Le pauvre Don Modesto était tellement identifié avec son uniforme qu'avec lui, il aurait perdu le dernier indice de sa profession. « Quel malheur !» s'écria tristement la tante Marie. « Cet accident a valu une migraine à Rosita, » poursuivit Don Modesto. « Son Excellence prie Monsieur le Commandant de se rendre dans son appartement, » dit alors un des domestiques. Don Modesto se redressa de toute sa hauteur. Il prit dans sa main un papier soigneusement plié et cacheté, serra le plus possible près du corps le bras sous lequel se trouvait la malheureuse déchirure et, se présentant devant le grand seigneur, il le salua avec respect en prenant la sévère position d'ordonnance. « Je souhaite à votre Excellence un heureux voyage, » dit-il, « et je désire qu'elle retrouve Madame la Duchesse et toute sa famille en bonne santé. Je prie aussi votre Excellence de vouloir bien remettre à Monsieur le ministre de la Guerre ses observations relatives au fort que j'ai l'honneur de commander. Votre Excellence a pu se convaincre par elle-même de l'urgence des réparations dont aurait besoin le fort de Saint-Christophe, surtout s'il s'agissait d'une guerre avec l'empereur du Maroc. » « Mon cher Don Modesto, répondit le duc, je n'ose pas me flatter du succès de cette requête. Je vous conseillerais plutôt de planter une croix sur les créneaux de votre forteresse, comme on en met une sur une sépulture. En revanche, je vous promets d'obtenir qu'on vous paie vos arrérages de solde. » Cette agréable promesse ne suffit pas à effacer la triste impression produite sur l'esprit du commandant par l'espèce de condamnation à mort prononcée par le duc sur sa chère forteresse. « En attendant, continua le duc, je vous prie d'accepter comme souvenir d'amitié. » En disant ces mots, il lui montra une chaise près de lui. Quelle ne fut pas la surprise de cet excellent homme en voyant étalé sur cette chaise un uniforme complet, neuf, brillant, avec des épaulettes dignes d'orner les épaules du plus grand capitaine du siècle. Don Modeste, comme cela était tout naturel, resta étonné, confus, ébloui, à la vue de tant d'éclat et de magnificence. « J'espère, monsieur le commandant, reprit le duc, que vous vivrez assez longtemps pour que cet uniforme ait pour vous autant de durée, pour le moins, que son prédécesseur. » « Ah, excellence !» répondit Don Modeste, recouvrant peu à peu la parole. « C'est vraiment trop beau pour moi !»« Pas du tout, pas du tout !» répondit le duc. « Combien y en a-t-il qui portent des uniformes plus riches sans le mériter autant ? Je sais de plus que vous avez une amie, une excellente gouvernante, et je crois que cela ne lui déplairait pas d'avoir aussi un souvenir. Faites-moi le plaisir de lui remettre ce cadeau de ma part. » C'était un rosaire en corail et filigrane d'or. Ensuite, sans donner à Don Modeste le temps de revenir de son étonnement, le duc se tourna du côté de la famille Allers qu'il avait fait réunir dans l'intention de leur témoigner sa reconnaissance et de laisser à tous un souvenir. Le duc ne faisait pas le bien avec l'indifférence et la prodigalité dédaigneuse et quelquefois blessante que montrent trop souvent les riches. Il le faisait comme le font ceux qui ne possèdent pas la richesse, c'est-à-dire en étudiant les goûts et les besoins de chacun. C'est ainsi que tous les habitants du couvent reçurent de lui ce qui leur manquait le plus ou qui pouvait leur être le plus agréable. Manuel eut un manteau et une bonne montre. Momo, un habillement complet, une ceinture de soie jaune et un fusil de chasse. Les femmes et les enfants, des étoffes pour faire des vêtements et des jouets. Anis eut un tambour et un cerf-volant de dimension telle que, quand il en était couvert, sa petite personne disparaissait comme aurait fait une souris derrière le bouclier d'Achille. Quant à la tante Marie, à l'infatigable garde-malade, à celle qui savait faire des bouillons fortifiants, le duc lui assura une rente viagère. Seul, le frère Gabriel n'eut rien. Il faisait si peu de bruit dans le monde et il s'était si bien caché au regard du duc que celui-ci n'avait pu parvenir à l'apercevoir. La tante Marie, sans être remarquée de personne, coupa quelques mètres d'une des pièces de cretonne dont le duc lui avait fait présent et prit en outre deux mouchoirs de coton et s'en alla trouver son protégé. « Tenez, frère Gabriel, voilà un petit cadeau que vous fait monsieur le duc. Je me charge de vous faire les chemises. » Le pauvre homme fut encore plus stupéfait que ne l'avait été le commandant, car il était d'une modestie qui allait jusqu'à l'humilité. Tout étant disposé pour le départ, le duc parut dans la cour. « Adieu, Romo, honneur de Villamar !» dit Marie-Salade à celui-ci. « Sois sûr que si je t'ai vu quelque part, je ne m'en souviens pas. » « Adieu, mouette !» répondit Momo. « Si tout le monde regrettait ton départ comme le fils de ma mère, les cloches pourraient sonner à toute volée. » L'oncle Pedro était resté assis sur les degrés de marbre. La tante Maria était auprès de lui, pleurant à chaudes larmes. « On croirait, dit Marie-Salade, que je m'en vais en Chine et que nous ne devons plus nous revoir. Quand je vous dis que je reviendrai !» « Allons donc, ne dirait-on pas un enterrement de bohémien ? Est-ce que vous avez juré de troubler la joie que j'éprouve d'aller à la ville ?»« Ma mère, dit Manuel, tout ému de voir les larmes de la bonne vieille, si vous pleurez si fort en ce moment, comment feriez-vous donc si je mourais ?»« Oh, je ne pleurerai pas, mon cher fils !» répondit sa mère en souriant au milieu de ses larmes. « Je n'aurai pas le temps de pleurer ta mort !» Les chevaux arrivèrent. Stein se jeta alors dans les bras de la tante Marie. « Ne nous oubliez pas, don Frédéric, dit la bonne vieille en sanglotant. Revenez avec nous. »« Si je ne reviens pas, dit celui-ci, ce sera parce que je serai mort. » Le duc avait pris ses mesures pour que Marie Salade montât promptement sur la mule qui lui était destinée, afin de lui épargner la longueur d'adieu si pénible. L'animal prit le trot, les cavaliers la suivirent, et la compagnie disparut derrière un angle des murs du couvent. Le pauvre père étendait les bras vers sa fille. « Je ne la verrai plus !» s'écria-t-il, suffoqué par la douleur et laissant tomber son visage sur les degrés de la croix. Les voyageurs poursuivirent leur chemin en pressant le trot de leur monture. Stein, en arrivant au calvaire, soulagea son cœur oppressé en adressant une prière fervente au Seigneur du Secours, dont la bienveillante influence se répandait dans la contrée comme la lumière autour de l'astre qui la dispense. Rosa Mystica était à sa fenêtre quand les voyageurs traversèrent la place du village. « Dieu me pardonne !» s'écria-t-elle en voyant Marie Salade chevauchant à côté du duc. « Non seulement elle ne me salue pas, mais elle ne daigne pas même me regarder. Allons, le démon de l'orgueil a déjà pénétré dans son cœur. Je parie, ajouta-t-elle en avançant sa tête jusqu'à la grille, qu'elle ne saluera pas non plus monsieur le curé qui est sous le porche de l'église. Oui, pourtant, mais c'est parce que le duc lui en donne l'exemple. Ah, il s'arrête pour lui parler. Il lui met une bourse dans les mains. C'est sans doute pour les pauvres. C'est un excellent monsieur. Il est très généreux et a fait beaucoup de bien. Que Dieu l'en récompense. » Rosa Mystica ignorait encore en ce moment la double surprise qui l'attendait. Stein, en passant, la salua tristement avec la main. « Allez en paix avec Dieu !» dit Rosa en agitant un mouchoir. « Quel brave homme ! Hier, en prenant congé de moi, il pleurait comme un enfant. Quel dommage qu'il ne reste pas ici ! Et il ne serait pas parti sans cette folle de mouette, comme dit très justement Momo. » La petite troupe des voyageurs était arrivée au sommet d'une colline et elle commença à descendre l'autre versant. Les maisons de Villamar disparurent aux regards attristés de Stein, qui ne pouvait s'arracher de ces lieux où il avait vécu si tranquille et si heureux. Pendant ce temps-là, le duc prenait la peine fort inutile de consoler Marie en présentant à son imagination les rêves les plus séduisants pour l'avenir. Stein n'avait Dieu que pour contempler les objets dont il s'éloignait. La croix du calvaire et la chapelle du Seigneur du Secours disparurent à leur tour. Puis la grande masse du couvent parut s'enfoncer peu à peu dans la terre. Enfin, de tout ce petit coin du monde si tranquille, il n'aperçut que les ruines du fort dessinant leur sombre silhouette sur le fond bleu du firmament, et la tour qui, selon l'expression d'un poète, semblait comme un doigt levé montrer le ciel avec une muette éloquence. Enfin, toute cette perspective s'évanouit, et Stein, pour cacher ses larmes, se couvrit le visage avec les mains.